je voudrais donner peut-être une ou deux indications. Vous savez que l'Épître aux Hébreux est une des plus difficiles du Nouveau Testament. Elle suppose une certaine culture biblique, notamment avoir lu un peu en détail le livre du Lévitique. Et c'est vrai que c'est une épître dans laquelle l'auteur aborde des sujets dans lesquels les Juifs de l'époque se sentaient tout à fait à l'aise. Mais nous n'avons plus la même culture, ni les mêmes références. Et nous, il nous faut faire un effort. Ceci étant, ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est inabordable. Et même quand c'est inabordable, parce qu'elle est tous un peu, pour nous, qui que nous soyons, la Bible ne s'adresse pas uniquement à des théologiens. Elle s'adresse à tous, et tous peuvent, je dirais au minimum, comme le dit l'auteur de l'Épître, voir Jésus. Et c'est ce qui est important pour nous tous. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par vous raconter une histoire. Il ne figure pas évidemment sur vos documents. C'est une histoire qui est une histoire inventée. Donc qui n'est pas vraie, mais qui est vraisemblable. Que j'ai trouvé dans un ouvrage et que j'ai un peu modifié pour essayer de lui donner un peu plus de consistance historique. Elle est un petit peu longue, mais à mon avis elle est intéressante parce qu'elle permet de bien comprendre dans quel esprit l'auteur de l'Épître aux Hébreux a écrit cette épître. L'épisode que je vais vous raconter se situe à Rome vers 64, après Jésus-Christ. En 45, vous vous souvenez, l'empereur Claude avait expulsé les Juifs de Rome, mais les lendemains de sa mort, il est mort empoisonné, si je me souviens bien, en 54, les Juifs revenaient dans la capitale. Je vois là l'histoire telle qu'on peut la raconter. Antonius était assis solitaire au second étage d'une insula, sorte de HLM délabré, sur les pentes de l'Esquilin, une des sept collines de Rome. Une assiette de légumes avariés, accompagnée d'un morceau de pain, une coupe de vin aigri reposait sur la table qu'il avait confectionnée lui-même. Dans la pièce assombrie par l'orage, Antonius avait allumé une petite lampe à huile. Ce matin-là, son employeur, un homme dur, appelé Brutus, avait une fois encore tourné en ridicule le jeune homme et l'avait giflé. Il s'était mordu la lèvre pour ne pas lui répondre. Rentré chez lui, blessé intérieurement, il avait supplié Dieu de pardonner ses pensées de vengeance. Depuis l'expulsion momentanée des Juifs de Rome par l'empereur Claude en 45, les chrétiens, la plupart d'origine juive, faisaient l'objet eux aussi, à des degrés divers, de menaces, de persécutions pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement. Antonius n'avait plus envie de se rendre à l'église chrétienne de maison, pourtant toute proche de chez lui. Tout semblait se liguer contre lui et le replonger dans son passé familial. Son grand-père, un juif orthodoxe, avait été un farouche adversaire des chrétiens. « Regarde, disait-il, la gloire d'Israël pendant des siècles, n'a-t-elle pas été de témoigner que Dieu était un seul Dieu ?» selon Deutéronome 6. Et il protestait contre l'absurdité de ces gentils qui adoraient des centaines de dieux. Nos chefs n'ont-ils pas eu raison de faire ce que la loi prévoyait envers celui qui blasphémait Dieu, qui se présentait comme Dieu? Sois raisonnable et ne pense pas être plus spirituel que nos rabbis. Garde la tradition de tes pères, ne divise pas notre famille en abandonnant ce qui a été notre patrimoine pour suivre une secte fanatique, ces chrétiens. Lorsqu'Antonius s'était converti à l'âge de 17 ans, il avait dû rompre les relations avec ce grand-père qu'il estimait. Aujourd'hui, la joie qu'il avait eue après sa conversion, ce sentiment de paix que rien ne pouvait altérer, avait disparu. Et puis, il avait entendu dire que le Messie était le juge, qu'il défendrait ce peuple nouveau qu'on appelait les chrétiens. Un texte de la Bible ne disait-il pas que toute chose lui était soumise? Mais devant les persécutions répétées, bien des membres des églises de maison avaient comme lui connu le découragement et se demandaient si réellement le Seigneur maîtrisait les événements. Dieu entendait-il les prières de détresse qui étaient montées si souvent vers lui? Antonius bar David se souvenait des traditions de la synagogue, de l'atmosphère conviviale qui y régnait lors des fêtes juives et des célébrations propres au calendrier juif. Certes, il appréciait la communion chrétienne quand il allait à l'assemblée, mais les traditions familiales et les contacts avec sa famille lui manquaient beaucoup. Quand il apercevait des parents, le jour du marché sur les rives du Tibre, certains traversaient la rue pour ne pas le saluer. À leurs yeux, il était un renégat. Cette solitude lui pesait. Pour parachever le tout, il était un des membres les plus pauvres de la communauté chrétienne. En effet, quand il s'était converti, il travaillait comme apprenti chez un tailleur du quartier juif. Mais les juifs avaient été expulsés. Et Antonius avait dû accepter des petits boulots chez ce Romain cruel, recevant même des ordres de la part d'esclaves grossiers. Pour manger, il était contraint de ramasser les fruits et légumes avariés et les restes qu'on lui jetait. Antonius n'avait plus participé au culte et au repas communautaire depuis quelques semaines. Son cœur s'était refroidi. Cependant, une espèce de démangeaison spirituelle lui signalait ce risque de découragement. Et voilà qu'il entend dire que les anciens de l'Église avaient reçu un document important, originaire des provinces orientales de l'Empire. Sa curiosité le poussait à rejoindre l'église de maison, proche de chez lui. Il se décida alors à s'y rendre. Ayant salué l'assistance, on l'invita à manger. Alors que le repas s'achevait, un homme âgé, Joseph, l'ancien de la petite communauté, arrivait et sans attendre, commençait à dérouler et à lire le parchemin. Après avoir autrefois, à bien des reprises et de bien des manières, parlé au Père par les prophètes, à la fin de ces jours-là, Dieu nous a parlé dans le Fils, qu'il a établi héritier de tout. Antonius allait avoir la réponse à toutes ses interrogations sur ce Messie appelé Jésus. Et des encouragements à ne pas retourner à la foi juive, trop souvent familiale et plus sociologique que réelle. Voilà cette petite histoire, je pense qu'elle vous a permis de comprendre l'ambiance, le public à laquelle cette épître s'adresse. On va donc passer tout de suite à ma présentation générale de l'épître. Donc je vais d'abord voir les destinataires de cette épître. Et on s'est posé, on se pose toujours la question, de qui s'agit-il? D'abord, il faut savoir que le titre, l'épître aux Hébreux, n'apparaît dans les manuscrits qu'à la fin du IIe siècle. Donc ce n'est pas un titre qui lui a été attribué dans l'original, dans le parchemin. La lettre vise de toute évidence, ça va de soi, une communauté chrétienne composée surtout de juifs, et probablement de juifs hellénistes, c'est-à-dire de juifs qui parlaient le grec et pas de juifs palestiniens qui parlaient encore l'hébreu et l'araméen. Pourquoi on peut dire ça? Parce que toutes les citations que l'on a de l'Ancien Testament sont faites dans la traduction dite de la Septante. Je rappelle que la première traduction de l'Ancien Testament, et la première traduction biblique, à ma connaissance, c'est la Septante, qui a été traduite de l'hébreu en grec au IIIe siècle avant notre ère à Alexandrie. Et c'est assez remarquable de voir que, au fond, quelqu'un qui s'adresse à des Hébreux, un, il écrit en grec, et il cite l'Ancien Testament en grec. Donc voilà ce qu'on peut dire, bien qu'on ne soit pas tout à fait sûr que ce soit obligatoirement des juifs hellénistes, mais c'est probable. La seconde question qu'on peut se poser, c'est où réside-t-il? Alors on a au chapitre 13 de l'Épître aux Hébreux une petite indication qui fait couler beaucoup d'encre, comme toujours, mais on n'est jamais très sûr de l'interprétation. Au verset 24, « Saluez tous vos conducteurs et tous les saints, ceux d'Italie vous saluent. » Ceux d'Italie vous saluent. Alors, il faut prendre des fois une lecture, une interprétation, il semblerait, je reste prudent, que l'auteur, avec des chrétiens qui sont originaires d'Italie, donc qui sont éloignés d'Italie, salue des compatriotes qui sont restés au pays, peut-être à Rome. C'est, semble-t-il, une des interprétations les plus logiques. Ce qui est plus intéressant, c'est que l'Épître nous donne des indications sur leur situation matérielle et spirituelle. On peut relever 4 points intéressants. D'abord, ce sont des gens qui sont généreux. Je lis en nouvelle version BPC, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant servi les saints et les servant encore. » Hébreux 6, 10. Ce sont des gens qui subissent les persécutions. Dans la petite histoire que je vous ai racontée, on voit bien ces persécutions. Et c'est quelque chose de vraiment assez fort quand même. Mais souvenez-vous des jours précédents durant lesquels vous avez enduré un grand combat de souffrance étant offert en spectacle. Et dans la suite du texte du chapitre 10 que j'ai cité, leur générosité est à nouveau soulignée. Vous avez montré de la compassion pour les prisonniers. Donc vous voyez, ce sont des gens qui sont persécutés. Et vous avez accepté avec joie d'être dépouillés de vos biens, sachant que vous avez pour vous-même des biens meilleurs et permanents. Voilà des gens qui sont donc généreux et qui sont persécutés. Des gens qui ont peut-être quelques problèmes d'ordre sexuel. En tout cas, il y a une exhortation, chapitre 13, que le mariage soit tenu en honneur à tous égards et le lit conjugal sans souillure, car les fornicateurs et les adultères, Dieu les jugera. Peut-être des problèmes d'argent. Chapitre 13, verset 5, que votre conduite soit sans avarice, étant satisfait de ce que vous avez présentement. Et puis, des problèmes de comportement, notamment la paresse à apprendre la doctrine, mais ça, ce n'est pas le propre des Hébreux, je crois que c'est un peu général. Il est dit au chapitre 5, au sujet de Melchizedek, nous avons beaucoup à dire, et des choses difficiles à expliquer. Vous voyez, l'auteur le reconnaît, des choses difficiles à expliquer. Puisque vous êtes devenus paresseux pour écouter, c'est d'autant plus difficile à expliquer quand on est paresseux. Vous qui, en effet, devriez être des docteurs vu le temps, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne quels sont les premiers rudiments des oracles de Dieu. Et il continue, nous désirons que chacun de vous montre le même empressement pour la pleine certitude de l'espérance jusqu'au bout, afin que vous ne deveniez pas paresseux, mais imitateurs de ceux qui, par la foi et la patience, héritent de ceux qui avaient été promis. C'est intéressant de voir que, en dehors de la référence peut-être à l'adultère et à l'amour de l'argent, l'Épître aux Hébreux parle peu de péchés individuels. Il n'y a pas des listes de péchés individuels comme on en a, par exemple, dans l'Épître aux Romains, dans les Corinthiens, dans les Éphésiens, et même, si je me souviens bien, dans la première Épître de Pierre, au chapitre 4. Ce n'est pas le même public. Ici, on a des gens qui ont été au contact pendant des générations avec la parole de Dieu. Et quelles que soient les erreurs qu'ils aient pu commettre et les errements dans lesquels le peuple ait pu tomber, il reste, du point de vue moral, que ces gens ont une moralité qui est bien supérieure à celle des païens de l'époque. Et on comprend que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ici, ne s'adresse pas à eux, comme le fait Paul, peut s'adresser à des chrétiens d'origine païenne, comme les Romains, ou à plus forte raison, les Corinthiens. Mais, quel est le péché fondamental pour les Hébreux? Ce n'est pas le péché des païens, c'est l'incrédulité. Et c'est extraordinaire, parce que c'est ce qui a caractérisé le peuple dès, on pourrait dire, la sortie d'Égypte, en exagérant un peu, mais enfin, il n'a pas fallu attendre beaucoup de temps pour voir que l'incrédulité se manifeste. Il y a eu d'autres choses dans ce peuple, il y a eu l'immoralité, il y a eu l'impatience, il y a eu... Mais, Un des péchés fondamentaux qui marquent les Juifs, c'est l'incrédulité, qui dans son essence, c'est une rébellion contre Dieu. C'est refuser d'obéir à Dieu et à ce qu'il demande. D'où, avant d'entrer dans le pays, dans le livre de Deutéronome, le mot clé, un des mots clés, c'est obéir. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, que tu as été un immigré, que tu as été un pauvre. Et tu obéiras à ton Dieu. Et on retrouve un petit peu ça, d'une certaine manière, sous une autre forme, dans l'Épître aux Hébreux.